Chapitre 12. Quelle devait être la conduite des Amis de la Liberté en 1814. Les Amis de la Liberté, nous l'avons dit, pouvaient seuls servir d'une manière efficace à l'établissement de la monarchie constitutionnelle en 1814. Mais quel parti devait-ils prendre à cette époque? Cette question, non moins importante que la première, mérite aussi d'être traitée. Nous la discuterons sans détour, puisque nous sommes nous-mêmes persuadés qu'il était du devoir de tout bon Français de défendre la Restauration et la Charte constitutionnelle. Charles Fox, dans son Histoire des deux derniers rois de la maison des Stuarts, dit qu'une Restauration est d'ordinaire la plus dangereuse et la plus mauvaise de toutes les révolutions. Il avait raison en appliquant cette maxime aux deux règnes de Charles II et de Jacques II, dont il écrivait l'histoire. Il voyait d'une part une dynastie nouvelle qui devait sa couronne à la liberté, tandis que l'ancienne avait cru qu'on la dépouillait de son droit naturel en limitant le pouvoir absolu, et s'était, en conséquence, vengée de tous ceux qui en avaient eu la pensée. Le principe de l'hérédité, si indispensable en général au repos des États, y nuisait nécessairement dans cette circonstance. Les Anglais ont donc fait très sagement d'appeler au trône la branche protestante. Leur constitution ne se serait jamais établie sans ce changement. Mais, quand le hasard de l'hérédité nous a donné pour monarque un homme tel que Louis XVIII, dont les études sérieuses et la placidité d'âme s'accordent volontiers avec la liberté constitutionnelle, et lorsque, d'un autre côté, le chef d'une dynastie nouvelle s'est montré pendant 15 années le despote le plus violent que l'on ait vu dans les temps modernes, comment une telle combinaison peut-elle rappeler en rien le sage Guillaume III et le sanguinaire et superstitieux Jacques II? Guillaume III, bien qu'il dût sa couronne à l'élection, trouvait souvent les manières de la liberté peu gracieuses. Et, s'il avait pu, il se serait fait despote tout comme son beau-père. Les souverains d'ancienne date, il est vrai, se croient indépendants du choix des peuples. Les papes aussi pensent qu'ils sont infaillibles. Les nobles s'enorgueillissent de leur généalogie. Chaque homme et chaque classe a sa prétention disputée. Mais qu'avait-on à craindre de ces prétentions en France maintenant? L'on ne pouvait redouter pour la liberté, dans la première époque de la Restauration, que le malheur qui l'a frappé, un mouvement militaire ramenant un chef despotique dont le retour et la défaite servaient de motif et de prétexte à l'établissement des étrangers en France. Louis XVIII était essentiellement magistrat, par son esprit et par son caractère. Autant il est absurde de regarder le passé comme le despote du présent, autant il est désirable d'ajouter, quand on le peut, l'appui de l'un au perfectionnement de l'autre. La Chambre haute avait l'avantage d'inspirer à quelques grands seigneurs le goût des institutions nouvelles. En Angleterre, les ennemis les plus décidés du pouvoir arbitraire se trouvent parmi les patriciens du premier rang, et ce serait un grand bonheur pour la France si les nobles voulaient enfin aimer et comprendre les institutions libres. Il y a des qualités attachées à une illustre naissance, dont il est heureux que l'État profite. Un peuple tout de bourgeois aurait de la peine à se constituer au milieu de l'Europe, à moins qu'il n'eût recours à l'aristocratie militaire, la plus funeste de toutes pour la liberté. Les guerres civiles doivent finir par des concessions mutuelles, et déjà l'on voyait les grands seigneurs se plier à la liberté pour plaire au roi. La nation devait gagner du terrain chaque jour. Les limiers de la force, qui sentent où elle est et se précipitent sur ses traces, ne se rattachaient point alors aux royalistes exagérés. L'armée commençait à prendre un air libéral, C'était, il est vrai, parce qu'elle regrettait son ancienne influence dans l'État. Mais enfin, la raison profitait de l'humeur. L'on entendait des généraux de Bonaparte s'essayer à parler liberté de la presse, liberté individuelle, à prononcer ces mots dont ils avaient reçu la consigne, mais qu'ils auraient fini par comprendre à force de les répéter. Les hommes les plus respectables parmi les militaires souffraient des défaites de l'armée, mais ils reconnaissaient la nécessité d'arrêter les représailles continuelles qui détruiraient à la fin la civilisation. Car si les Russes devaient venger Moscou à Paris et les Français Paris à Pétersbourg, les promenades sanglantes des soldats à travers l'Europe anéantiraient les lumières et les jouissances de l'ordre social. D'ailleurs, cette première entrée des étrangers effaçait-elle les nombreux triomphes des Français? N'étaient-ils pas encore présents à l'Europe entière? Ne parlait-elle pas de la bravoure des Français avec respect? Et n'était-il pas juste alors, quoique cela fût douloureux, que les Français, à leur tour, ressentissent les dangers attachés à leurs injustes guerres? Enfin, l'irritation qui portait quelques individus à désirer de voir renversé un gouvernement proposé par les étrangers était-elle un sentiment patriotique? Certainement, les nations européennes n'avaient point pris les armes pour rétablir les Bourbons sur le trône. Ainsi, l'on ne devait pas attribuer la coalition à l'ancienne dynastie. On ne pouvait pas nier aux descendants de Henri IV qu'ils ne fussent français. Et Louis XVIII s'était conduit comme tel dans la négociation de la paix lorsque, après toutes les concessions faites avant son arrivée, il avait su conserver intact l'ancien territoire de France. Il n'était donc pas vrai de dire que l'orgueil national exigeât de nouvelles guerres. La France avait encore beaucoup de gloire, et si elle avait su repousser Bonaparte et devenir libre comme l'Angleterre, jamais elle n'aurait vu les étendards britanniques flotter une seconde fois sur ses remparts. Aucune confiscation, aucun exil, aucune arrestation illégale n'a eu lieu pendant 10 mois. Quel progrès en sortant de 15 ans de tyrannie! À peine si l'Angleterre est arrivée à ce noble bonheur 30 ans après la mort de Cromwell. Enfin, il n'était pas douteux que, dans la session suivante, on eût décrété la liberté de la presse. Or, l'on peut appliquer à cette loi, la première d'un État libre, les paroles de l'Écriture, que la lumière soit et la lumière fut. La plus grande erreur de la charte, le mode d'élection et les conditions d'éligibilité étaient déjà reconnues par tous les hommes éclairés. Et des changements à cet égard auraient été la conséquence naturelle de la liberté de la presse, puisqu'elle met toujours les grandes vérités en évidence, l'esprit, le talent d'écrire, l'exercice de la pensée, tout ce que le règne des baïonnettes avait étouffé, se remontrait par degrés. Et si l'on a parlé constitution à Bonaparte, c'est parce qu'on avait respiré pendant 10 mois sous Louis XVIII. Quelques vanités se plaignaient, quelques imaginations étaient inquiètes. Les écrivains stipendiés, en parlant chaque jour à la nation de son bonheur, l'en faisaient douter. Mais quand les champions de la pensée seraient entrés dans la lice, les Français auraient reconnu la voix de leurs amis. Ils auraient appris de quel danger l'indépendance nationale était menacée, quel motif ils avaient de rester en paix, au dehors comme au dedans, et de regagner l'estime de l'Europe par l'exercice des vertus civiles. Les récits monotones des guerres se confondent dans la mémoire ou se perdent dans l'oubli. L'histoire politique des peuples libres de l'Antiquité est encore présente à tous les esprits et sert d'étude au monde depuis 2000 ans. Chapitre 13. Retour de Bonaparte. Non. Jamais je n'oublierai le moment où j'ai appris par un de mes amis, le matin du 6 mars 1815, que Bonaparte était débarqué sur les côtes de France. J'eus le malheur de prévoir à l'instant les suites de cet événement, telles qu'elles ont eu lieu depuis, et je crus que la terre allait s'entr'ouvrir sous mes pas. Pendant plusieurs jours, après le triomphe de cet homme, le secours de la prière m'a manqué complètement. Et dans mon trouble, il me semblait que la divinité s'était retirée de la terre et qu'elle ne voulait plus communiquer avec les êtres qu'elle y a mis. Je souffrais jusqu'au fond du cœur par les circonstances où je me trouvais personnellement. Mais la situation de la France absorbait toute autre pensée. Je dis à M. de Lavalette, que je rencontrais presque à l'heure même où cette nouvelle retentissait autour de nous, « C'en est fait de la liberté si Bonaparte triomphe, et de l'indépendance nationale s'il est battu. L'événement n'a que trop justifié, ce me semble, cette triste prédiction. » L'on ne pouvait se défendre d'une inexprimable irritation avant le retour et pendant le voyage de Bonaparte. Depuis un mois, tous ceux qui ont quelque connaissance des révolutions sentaient l'air chargé d'orage. On ne cessait d'en avertir les alentours du gouvernement. Mais plusieurs d'entre eux regardaient les amis inquiets de la liberté comme des relapses qui croyaient encore à l'influence du peuple, à la force des révolutions. Les plus modérés parmi les aristocrates pensaient que les affaires publiques ne devaient regarder que les gouvernants et qu'il était indiscret de s'en occuper. On ne pouvait leur faire comprendre que, pour savoir ce qui se passe dans un pays où l'esprit de la liberté fermente, il ne faut négliger aucun avis, n'être indifférent à aucune circonstance, et se multiplier par l'activité au lieu de se renfermer dans un silence mystérieux. Les partisans de Bonaparte étaient mille fois mieux instruits sur toute chose que les serviteurs du roi, car les bonapartistes, aussi bien que leurs maîtres, savaient de quelle importance peut être chaque individu dans les temps de trouble. Aussi, tout consistait dans les hommes en place. Maintenant, ceux qui sont hors du gouvernement agissent plus sur l'opinion que le gouvernement lui-même, et par conséquent prévoit mieux l'avenir. Une crainte continuelle s'était emparée de mon âme, plusieurs semaines avant le débarquement de Bonaparte. Le soir, quand les beaux édifices de la ville étaient éclairés par les rayons de la lune, il me semblait que je voyais mon bonheur et celui de la France comme un ami malade, dont le sourire est d'autant plus aimable qu'il va nous quitter bientôt. Lors donc qu'on me dit que ce terrible homme était à Cannes, je reculais devant cette certitude comme devant un poignard. Mais, quand il ne fut plus possible d'y échapper, je ne fus que trop assuré qu'il serait à Paris dans 15 jours. Les royalistes se moquaient de cette terreur. Il fallait leur entendre dire que cet événement était le plus heureux du monde, parce qu'on allait être débarrassé de Bonaparte, parce que les deux chambres allaient sentir la nécessité de donner au roi un pouvoir absolu, comme si cela se donnait. Le despotisme aussi bien que la liberté se prend et ne s'accorde pas. Je suis sûr que parmi les ennemis de toute constitution, il ne s'en soit pas trouvé qui se réjouissait du bouleversement qui pouvait rappeler les étrangers et les engager à imposer à la France un gouvernement absolu. 3 jours se passèrent dans les espérances inconsidérées du parti royaliste. Enfin, le 9 mars, on nous dit qu'on ne savait rien du télégraphe de Lyon, parce qu'un nuage avait empêché de lire ce qu'il annonçait. Je compris ce que c'était que ce nuage. J'allais le soir aux Tuileries pour faire ma cour au roi. En le voyant, il me sembla qu'à travers beaucoup de courage, il avait une expression de tristesse, et rien n'était plus touchant que sa noble résignation dans un pareil moment. En sortant, j'aperçus sur les parois de l'appartement les aigles de Napoléon qu'on n'avait pas encore ôtées, et elles me paraissaient redevenues menaçantes. Le soir, dans une société, une de ces jeunes dames qui avaient contribué, avec tant d'autres, à l'esprit de frivolité qu'on voulait opposer à l'esprit de faction, comme s'ils pouvaient lutter l'un contre l'autre. Une de ces jeunes dames s'approcha de moi et se mit à plaisanter sur l'anxiété que je ne pouvais cacher. « Quoi ? Me dit-elle, madame, pouvez-vous craindre que les Français ne se battent pas pour leur roi légitime contre un usurpateur ? Comment, sans se compromettre, répondre à cette phrase si bien faite ? Mais, après 25 ans de révolution, devait-on se flatter qu'une idée respectable, mais abstraite, la légitimité, aurait plus d'empire sur les soldats que tous les souvenirs de leur longue guerre ? En effet, aucun d'eux ne lutta contre l'ascendant surnaturel du génie des îles africaines. Ils appelèrent le tyran au nom de la liberté. Ils repoussèrent en son nom le monarque constitutionnel. Ils attirèrent 600 000 étrangers au sein de la France pour effacer l'humiliation de les y avoir vus pendant quelques semaines. Et cet horrible jour du 1er mars, ce jour où Bonaparte remit le pied sur le sol de France, fut plus fécond en malheur qu'aucune époque de l'histoire. Je ne me livrerai point, comme on ne se l'est que trop permis, à des déclamations de tout genre contre Napoléon. Il a fait ce qu'il était naturel de faire, en essayant de regagner le trône qu'il avait perdu. Et son voyage de Cannes à Paris est une des plus grandes conceptions de l'audace que l'on puisse citer dans l'histoire. Mais que dire des hommes éclairés qui n'ont pas vu le malheur de la France et du monde dans la possibilité de son retour ? On voulait un grand général, dira-t-on, pour se venger des revers que l'armée française avait éprouvés. Dans ce cas, Bonaparte n'aurait pas dû proclamer le traité de Paris, car s'il ne pouvait pas reconquérir la barrière du Rhin, sacrifié par ce traité, à quoi servait-il d'exposer ce que la France possédait en paix ? Mais, répondra-t-on, l'intention secrète de Bonaparte était de rendre à la France ses barrières naturelles. N'était-il pas certain alors que l'Europe devinerait cette intention, qu'elle se coaliserait pour la combattre, et que, surtout à cette époque, la France ne pouvait résister à l'Europe réunie ? Le congrès était encore rassemblé, et bien que beaucoup de mécontentements fussent motivés par plusieurs de ces résolutions, se pouvait-il que les nations choisissent Bonaparte pour leur défenseur ? Était-ce celui qui les avait opprimés qu'elles pouvaient opposer aux fautes de leur prince ? Les nations étaient plus violentes que les rois dans la guerre contre Bonaparte. Et la France, en le reprenant pour chef, devait s'attirer la haine des gouvernements et des peuples tout ensemble. Osera-t-on prétendre que ce fut pour les intérêts de la liberté qu'on rappelait l'homme qui s'était montré pendant 15 ans le plus habile dans l'art d'être le maître, un homme aussi violent que dissimulé ? On parlait de sa conversion, et l'on trouvait des crédules à ce miracle. Certes, il fallait moins de foi pour ceux de Mahomet. Les amis de la liberté n'ont pu voir dans Bonaparte que la contre-révolution du despotisme et le retour d'un ancien régime plus récent, mais par cela même plus redoutable. Car la nation était encore toute façonnée à la tyrannie, et ni les principes ni les vertus publiques n'avaient eu le temps de reprendre racine. Les intérêts personnels seuls, et non les opinions, ont conspiré pour le retour de Bonaparte, et des intérêts forcenés qui s'aveuglaient sur leur propre péril et ne comptaient pour rien le sort de la France. Les ministres étrangers ont appelé l'armée française une armée parjure, et ce mot ne peut se supporter. L'armée qui abandonna Jacques II pour Guillaume III était donc parjure aussi, et de plus on se ralliait en Angleterre au gendre et à la fille pour détrôner le père. Circonstance plus cruelle encore. Eh bien, dira-t-on, soit, les deux armées ont trahi leur devoir. Je n'accorde pas même la comparaison. Les soldats français, pour la plupart au-dessous de 40 ans, ne connaissaient pas les Bourbons. Ils s'étaient battus depuis 20 années sous les ordres de Bonaparte. Pouvaient-ils tirer sur leur général? Et dès qu'ils ne tiraient pas sur lui, ne devaient-ils pas être entraînés à le suivre? Les hommes vraiment coupables sont ceux qui, après s'être approchés de Louis XVIII, après en avoir obtenu des grâces et lui avoir fait des promesses, ont pu se réunir à Bonaparte. Le mot, l'horrible mot de trahison, est fait pour cela. Mais il est cruellement injuste de l'adresser à l'armée française. Les gouvernements qui ont mis Bonaparte dans le cas de revenir doivent s'accuser de son retour. Car de quel sentiment naturel se serait-on servi pour persuader à des soldats qu'ils devaient tuer le général qui les avait conduits 20 fois à la victoire, le général que les étrangers avaient destitué, qui s'était battu contre eux avec les Français il y avait à peine une année? Toutes les réflexions qui nous faisaient haïr cet homme et chérir le roi n'étaient à la portée ni des soldats ni des officiers du second ordre. Ils avaient été fidèles 15 ans à l'empereur. Cet empereur s'avançait vers eux sans défense. Il les appelait par leur nom, il leur parlait des batailles qu'ils avaient gagnées avec lui. Comment pouvaient-ils résister? Dans quelques années, le nom du roi, les bienfaits de la liberté, devaient captiver tous les esprits, et les soldats auraient appris de leurs parents à respecter le bonheur public. Mais il y avait à peine 10 mois que Bonaparte était éloigné, et son départ datait d'un événement qui devait désespérer les guerriers, l'entrée des étrangers dans la capitale de la France. Mais, diront encore les accusateurs de notre pays, si l'armée est excusable, que penserez-vous des paysans, des habitants des villes qui ont accueilli Bonaparte? Je ferai dans la nation la même distinction que dans l'armée. Les hommes éclairés n'ont pu voir dans Bonaparte qu'un despote. Mais, par un concours de circonstances bien funestes, on a présenté ce despote au peuple comme le défenseur de ses droits. Tous les biens acquis par la Révolution, auxquels la France ne renoncera jamais volontairement, étaient menacés par les continuelles imprudences du parti qui veut refaire la conquête des Français, comme s'ils étaient encore des Gaulois. Et la partie de la nation qui craignait le plus le retour de l'ancien régime, a cru voir dans Bonaparte un moyen de s'en préserver. La plus fatale combinaison qui put accabler les amis de la liberté, c'était qu'un despote se mit dans leur rang, se plaça pour ainsi dire à leur tête, et que les ennemis de toute idée libérale eussent un prétexte pour confondre les violences populaires avec les maux du despotisme, et faire ainsi passer la tyrannie sur le compte de la liberté même. Il est résulté de cette fatale combinaison que les Français ont été haïs par les souverains pour avoir voulu être libres, et par les nations pour n'avoir pas su l'être. Sans doute il a fallu de grandes fautes pour amener un tel résultat, mais les injures que ces fautes ont provoquées plongerait toutes les idées dans la confusion si l'on n'essayait pas de montrer que les Français, comme tout autre peuple, ont été victimes des circonstances qu'amènent les grands bouleversements dans l'ordre social. Si l'on veut toutefois blâmer, n'y aurait-il donc rien à dire sur ces royalistes qui se sont laissés enlever le roi sans qu'une amorce ait été brûlée pour le défendre? Certes, ils doivent se rallier aux institutions nouvelles, puisqu'il est si manifeste qu'il ne reste plus rien à l'aristocratie de son ancienne énergie. Mais ce n'est pas assurément que les gentilshommes ne soient, comme tous les Français, de la plus brillante bravoure, mais ils se perdent par la confiance dès qu'ils sont les plus forts et par le découragement dès qu'ils sont les plus faibles. Leur confiance aveugle vient de ce qu'ils ont fait un dogme de la politique et qu'ils se fient, comme les Turcs, au triomphe de leur foi. La cause de leur découragement, c'est que les trois quarts de la nation française, étant à présent pour le gouvernement représentatif, dès que les adversaires de ce système n'ont pas 600 000 baïonnettes étrangères à leur service, ils sont dans une telle minorité qu'ils perdent tout espoir de se défendre. S'ils voulaient bien traiter avec la raison, ils redeviendraient ce qu'ils doivent être, alternativement l'appui du peuple et celui du trône. Chapitre 14 de la conduite de Bonaparte à son retour. Si c'était un crime de rappeler Bonaparte, c'était une niaiserie de vouloir masquer un tel homme en roi constitutionnel. Du moment qu'on le reprenait, il fallait lui donner la dictature militaire, rétablir la conscription, faire lever la nation en masse, enfin ne pas s'embarrasser de la liberté, quand l'indépendance était compromise. L'on déconsidérait nécessairement Bonaparte en lui faisant tenir un langage tout contraire à celui qui avait été le sien pendant 15 ans. Il était clair qu'il ne pouvait proclamer des principes si différents de ceux qu'il avait suivis quand il était tout-puissant que parce qu'il y était forcé par les circonstances. Or, qu'est-ce qu'un tel homme quand il se laisse forcer ? La terreur qu'il inspirait, la puissance qui résultait de cette terreur, n'existait plus. C'était un ours muselé qu'on entendait murmurer encore, mais que ses conducteurs faisaient danser à leur façon. Au lieu d'obliger à parler constitution pendant des heures entières, un homme qui avait en horreur les idées abstraites et les barrières légales, il fallait qu'il fût en campagne 4 jours après son arrivée à Paris, avant que les préparatifs des alliés fussent faits, et surtout pendant que l'étonnement causé par son retour ébranlait encore les imaginations. Il fallait qu'il soulevât les passions des Italiens et des Polonais, qu'il promît aux Espagnols d'expier ses fautes en leur rendant leur Cortés, enfin qu'il prît la liberté comme arme et non comme entrave. Quiconque est loup agit sans loup, c'est le plus certain de beaucoup. Quelques amis de la liberté, cherchant à se faire illusion à eux-mêmes, ont voulu se justifier de se rattacher à Bonaparte en lui faisant signer une constitution libre. Mais il n'y avait point d'excuse pour servir Bonaparte ailleurs que sur le champ de bataille. Une fois les étrangers aux portes de la France, il fallait leur en défendre l'entrée. L'estime de l'Europe elle-même ne se regagnait qu'à ce prix. Mais c'était dégrader les principes de la liberté que d'en entourer un ci-devant despote. C'était mettre l'hypocrisie dans les plus sincères des vérités humaines. En effet, comment Bonaparte aurait-il supporté la constitution qu'on lui faisait proclamer? Lorsque des ministres responsables se seraient refusés à sa volonté, qu'en aurait-il fait? Et si ces mêmes ministres avaient été sévèrement accusés par les députés pour lui avoir obéi, comment aurait-il contenu le mouvement involontaire de sa main pour faire signe à ses grenadiers d'aller une seconde fois chasser à coups de baïonnette les représentants d'une autre puissance que la sienne? Quoi ? Cet homme aurait lu tous les matins dans les journaux des insinuations sur ses défauts, sur ses erreurs ? Des plaisanteries se seraient approchées de sa patte impériale et il n'aurait pas frappé ? Ainsi l'a-t-on vu souvent, prêt à rentrer dans son véritable caractère. Et puisque tel était ce caractère, il ne pouvait trouver de force qu'en le montrant. Le jacobinisme militaire, l'un des plus grands fléaux du monde, s'il était encore possible, était l'unique ressource de Bonaparte. Quand il a prononcé les mots de loi et de liberté, l'Europe s'est rassurée. Elle a senti que ce n'était plus son ancien et terrible adversaire. Une grande faute aussi qu'on a fait commettre à Bonaparte, c'est l'établissement d'une chambre des pairs. L'imitation de la constitution anglaise, si souvent recommandée, avait enfin saisi les esprits français. Et comme toujours, ils ont porté cette idée à l'extrême. Car une pairie ne peut pas plus se créer du soir au lendemain qu'une dynastie. Il faut pour une hérédité dans l'avenir une hérédité précédente. Vous pouvez sans doute, je le répète, associer des noms nouveaux aux noms anciens. Mais il faut que la couleur du passé se fonde avec le présent. Or, que signifiait cette antichambre des pairs dans laquelle se plaçaient tous les courtisans de Bonaparte ? Il y en avait parmi eux de fort estimables, mais on en pouvait citer dont les fils auraient demandé qu'on leur épargnât le nom de leur père, au lieu de leur en assurer la continuité. Quel élément pour fonder l'aristocratie d'un État libre, celle qui doit mériter les égards du monarque aussi bien que du peuple ? Un roi fait pour être respecté volontairement trouve sa sécurité dans la liberté nationale. Mais un chef redouté, qu'une moitié de la nation repousse, et que l'autre n'appelle que pour en obtenir des victoires, pourquoi cherchait-il un genre d'estime qu'il ne pouvait jamais obtenir ? Bonaparte, au milieu de toutes les entraves qu'on lui a imposées, n'a pu montrer le génie qui lui restait encore. Il laissait faire, il ne commandait plus. Ses discours portaient l'empreinte d'un pressentiment funeste, soit qu'il connût la force de ses ennemis, soit qu'il s'impatientât de n'être plus le maître absolu de la France. L'habitude de la dissimulation, qui a toujours été dans son caractère, l'a perdu dans cette occasion. Il a joué un rôle de plus avec sa facilité accoutumée, mais la circonstance était trop grave pour s'en tirer par la ruse. Et l'action franche de son despotisme et de son impétuosité pouvait seule lui donner une chance de succès, au moins momentanée. Chapitre 15 De la chute de Bonaparte. Je n'ai point encore parlé du guerrier qui a fait pâlir la fortune de Bonaparte, de celui qui, depuis Lisbonne jusqu'à Waterloo, l'a poursuivi comme cet adversaire de Macbeth, qui devait avoir des dons surnaturels pour le vaincre. Ces dons surnaturels ont été le plus noble désintéressement, une inébranlable justice, des talents qui prenaient leur source dans l'âme, une armée d'hommes libres. Si quelque chose peut consoler la France d'avoir vu les Anglais au sein de sa capitale, c'est qu'elle aura du moins appris ce que la liberté les a fait. Le génie militaire de Lord Wellington ne saurait être l'œuvre de la constitution de son pays. Mais la modération, mais la noblesse de sa conduite, la force qu'il a puisée dans ses vertus, lui viennent de l'ère morale de l'Angleterre. Et ce qui met le comble à la grandeur de ce pays et de son général, c'est que, tandis que sur le sol ébranlé de la France, les exploits de Bonaparte on suffit pour en faire un despote sans frein. Celui qui l'a vaincu, celui qui n'a pas encore fait une faute ni perdu l'occasion d'un triomphe, Wellington, ne sera dans sa patrie qu'un citoyen sans pareil, mais aussi soumis à la loi que le plus obscur des hommes. J'oserais le dire, cependant. Notre France n'aurait peut-être pas succombé si tout autre que Bonaparte en eût été le chef. Il était très habile dans l'art de commander une armée, mais il ne lui était pas donné de rallier une nation. Le gouvernement révolutionnaire lui-même s'entendait mieux à faire naître l'enthousiasme qu'un homme qui ne pouvait être admiré que comme individu, mais jamais comme défenseur d'un sentiment ni d'une idée. Les soldats se sont très bien battus pour Bonaparte, mais la France, à son retour, a peu fait pour lui. D'abord, il y avait un parti nombreux contre Bonaparte, un parti nombreux pour le roi, qui ne croyait pas devoir résister aux étrangers. Mais quand on aurait pu convaincre tous les Français que dans quelque situation que ce soit, le devoir d'un citoyen est de défendre l'indépendance de la patrie, personne ne se bat avec toute l'énergie dont il est capable quand il s'agit seulement de repousser un mal et non d'obtenir un bien. Le lendemain d'un triomphe sur l'étranger, on était certain d'être asservi dans l'intérieur. La double force qui aurait fait repousser l'ennemi et renverser le despote n'existait plus dans une nation qui n'avait conservé que du nerf militaire, ce qui ne ressemble point à l'esprit public. D'ailleurs, parmi ses adhérents même, Bonaparte a recueilli les fruits amers de la doctrine qu'il avait semée. Il n'avait exalté que le succès, il n'avait préconisé que les circonstances. Dès qu'il s'agissait d'opinion, de dévouement, de patriotisme, la peur qu'il avait de l'esprit de liberté le portait à tourner en ridicule tous les sentiments qui pouvaient y conduire. Il n'y a pourtant que ces sentiments qui donnent de la persévérance, qui rattachent au malheur. Il n'y a que ces sentiments dont la puissance soit électrique et qui forment une association d'une extrémité d'un pays à l'autre, sans qu'on ait besoin de se parler pour être d'accord. Si l'on examine les divers intérêts des partisans de Bonaparte et de ses adversaires, on expliquera tout de suite les motifs de leur dissentiment. Dans le Midi, comme dans le Nord, les villes de fabrique étaient pour lui. Les ports de mer étaient contre lui, parce que le blocus continental avait favorisé les manufactures et détruit le commerce. Toutes les différentes classes des défenseurs de la Révolution pouvaient, à quelques égards, préférer le chef dont l'illégitimité même était une garantie, puisqu'elle le plaçait en opposition avec les anciennes doctrines politiques. Mais le caractère de Bonaparte est si contraire aux institutions libres que ceux de leurs partisans qui ont cru devoir se rattacher à lui ne l'ont pas secondé de tous leurs moyens, parce qu'il ne lui appartenait pas de toute leur âme. Ils avaient une arrière-pensée, une arrière-espérance. S'il restait, ce qui est fort douteux, une ressource à la France, lorsqu'elle avait provoqué l'Europe, ce ne pouvait être que la dictature militaire ou la République. Mais rien n'était plus insensé que de fonder une résistance désespérée sur un mensonge. On n'a jamais le tout d'un homme avec cela. Le même système d'égoïsme qui a toujours guidé Bonaparte l'a porté à vouloir à tout prix une grande victoire, au lieu d'essayer un système défensif qui convenait peut-être mieux à la France, surtout si l'esprit public l'avait soutenu. Mais il arrivait en Belgique, à ce qu'on dit, portant dans sa voiture un sceptre, un manteau, enfin tous les hochets de l'Empire, car il n'entendait bien qu'à cette espèce de pompe mêlée de charlatanisme. Quand Napoléon revint à Paris après sa bataille perdue, il n'avait sûrement aucune idée d'abdiquer. Et son but était de demander aux deux chambres des secours en hommes et en argent pour essayer une nouvelle lutte. Elles auraient dû tout accorder dans cette circonstance, plutôt que de céder aux puissances étrangères. Mais si les chambres ont peut-être eu tort, arrivées à cette extrémité, d'abandonner Bonaparte, que dire de la manière dont il s'est abandonné lui-même ? Quoi, cet homme qui venait d'ébranler encore l'Europe par son retour envoie sa démission comme un simple général ? Il n'essaye pas de résister ? Il y a une armée française sous les murs de Paris. Elle veut se battre contre les étrangers. Et il n'est pas avec elle, comme chef ou comme soldat. Elle se retire derrière la Loire Il traverse cette Loire pour aller s'embarquer, pour mettre sa personne en sûreté, quand c'est par son propre flambeau que la France est embrasée. » On ne saurait se permettre d'accuser Bonaparte de manque de bravoure dans cette circonstance, non plus que dans celle de l'année précédente. Il n'a pas commandé l'armée française pendant 20 années sans s'être montré digne d'elle. Mais il est une fermeté d'âme que la conscience peut seule donner. Et Bonaparte, au lieu de cette volonté indépendante des événements, avait une sorte de foi superstitieuse à la fortune, qui ne lui permettait pas de marcher sans elle. Du jour où il a senti que c'était bien le malheur qui s'emparait de lui, il n'a pas lutté. Du jour où sa destinée a été renversée, il ne s'est plus occupé de celle de la France. Bonaparte s'était intrépidement exposé à la mort dans la bataille, mais il n'a point voulu se la donner à lui-même, et cette résolution n'est pas sans quelque dignité. Cet homme a vécu pour donner au monde la leçon de morale la plus frappante, la plus sublime, dont les peuples aient jamais été témoins. Il semble que la Providence ait voulu, comme un sévère poète tragique, faire ressortir la punition d'un grand coupable des forfaits mêmes de sa vie. Bonaparte, qui pendant 10 ans avait soulevé le monde contre le pays le plus libre et le plus religieux que l'ordre social européen ait encore formé, contre l'Angleterre, se remet entre ses mains. Lui, qui pendant 10 ans l'avait chaque jour outragé, en appel à sa générosité. Enfin, lui, qui ne parlait des lois qu'avec mépris, qui ordonnait si légèrement des emprisonnements arbitraires, invoque la liberté des Anglais et veut s'en faire un bouclier. Ah ! Que ne la donnait-il à la France, cette liberté ? Ni lui, ni les Français ne se seraient trouvés à la merci des vainqueurs. Soit que Napoléon vive ou périsse, soit qu'il reparaisse ou non sur le continent de l'Europe, un seul motif nous excite à parler encore de lui. C'est l'ardent désir que les amis de la liberté, en France, séparent entièrement leur cause de la sienne, et qu'on se garde de confondre les principes de la Révolution avec ceux du régime impérial. Il n'est point, je crois l'avoir montré, de contre-révolution aussi fatale à la liberté que celle qu'il a faite. S'il eût été d'une ancienne dynastie, il aurait poursuivi l'égalité avec un acharnement extrême, sous quelque forme qu'elle pût se présenter. Il a fait sa cour aux prêtres, aux nobles et aux rois, dans l'espoir de se faire accepter pour monarque légitime. Il est vrai qu'il leur disait quelquefois des injures et qu'il leur faisait du mal, quand il s'apercevait qu'il ne pouvait entrer dans la confédération du passé, mais ses penchants étaient aristocrates jusqu'à la petitesse. Si les principes de la liberté succombent en Europe, c'est parce qu'il les a déracinés de la tête des peuples. Il a partout relevé le despotisme en lui donnant pour appui la haine des nations contre les Français. Il a défait l'esprit humain en imposant pendant 15 ans à ses folliculaires l'obligation d'écrire et de développer tous les systèmes qui pouvaient égarer la raison et étouffer les lumières. Il faut des gens de mérite en tout genre pour établir la liberté. Bonaparte n'a voulu d'homme supérieur que parmi les militaires, et jamais sous son règne une réputation civile n'a pu se fonder. Au commencement de la Révolution, une foule de noms illustres honorait la France, et c'est un des principaux caractères d'un siècle éclairé que d'avoir beaucoup d'hommes remarquables, mais difficilement un homme au-dessus de tous les autres. Bonaparte a subjugué le siècle à cet égard, non qu'il lui fût supérieur en lumière, mais au contraire, parce qu'il avait quelque chose de barbare à la façon du Moyen-Âge. Il apportait de la Corse un autre siècle, d'autres moyens, un autre caractère que tout ce que nous avions en France. Cette nouveauté même a favorisé son ascendant sur les esprits. Bonaparte est seul là où il règne, et nulle autre distinction n'est conciliable avec la sienne. On peut penser diversement sur son génie et sur ses qualités. Il y a quelque chose d'énigmatique dans cet homme qui prolonge la curiosité. Chacun le peint sous d'autres couleurs, et chacun peut avoir raison du point de vue qu'il choisit. Qui voudrait concentrer son portrait en peu de mots n'en donnerait qu'une fausse idée. Pour arriver à quelque ensemble, il faut suivre diverses routes. C'est un labyrinthe, mais un labyrinthe qui a un fil, l'égoïsme. Ceux qui l'ont connu personnellement peuvent lui trouver dans son intérieur un genre de bonté dont le monde assurément ne s'est pas ressenti. Le dévouement de quelques amis vraiment généreux est ce qui parle le plus en sa faveur. Le temps éclaircira les divers traits de son caractère, et ceux qui veulent admirer tout homme extraordinaire sont en droit de le trouver tel. Mais il n'a pu, mais il ne pourrait apporter que la désolation à la France. Dieu nous en préserve donc, et pour jamais. Mais que l'on se garde d'appeler bonapartistes ceux qui soutiennent les principes de la liberté en France. Car, avec bien plus de raison, on pourrait attribuer ce nom aux partisans du despotisme, à ceux qui proclament les maximes politiques de l'homme qu'ils proscrivent. Leur haine contre lui n'est qu'une dispute d'intérêts. Et le véritable amour des pensées généreuses n'y a point de part. Chapitre 16 de la Déclaration des droits proclamée par la Chambre des représentants le 5 juillet 1815. Bonaparte a signé sa seconde abdication le 22 juin 1815. Et le 8 du mois suivant, les troupes étrangères sont entrées dans la capitale. Pendant cet intervalle bien court, les partisans de Napoléon ont absorbé beaucoup de temps précieux à vouloir, contre le vœu national, assurer la couronne à son fils. La Chambre des représentants, d'ailleurs, renfermait dans son sein beaucoup d'hommes qui n'auraient sûrement pas été élus sans l'influence de l'esprit de parti. Néanmoins, il suffisait que pour la première fois depuis 15 ans, 600 Français, choisis d'une manière quelconque par le peuple, fussent réunis et délibérassent en public pour qu'on vît reparaître l'esprit de liberté et le talent de la parole. Des hommes tout à fait nouveaux dans la carrière politique ont improvisé à la tribune avec une supériorité remarquable. D'autres, qu'on n'avait pas entendus pendant le règne de Bonaparte, ont retrouvé leur ancienne vigueur. Et cependant, je le répète, on voyait là des députés que la nation, livrée à elle-même, n'eût jamais acceptés. Mais telle est la force de l'opinion quand on se sent en sa présence. Tel est l'enthousiasme qu'inspire une tribune, d'où l'on se fait entendre à tous les esprits éclairés de l'Europe, que des principes sacrés, obscurcis par de longues années de despotisme, ont reparu en moins de 15 jours. Et dans quelles circonstances ont-ils reparu? Quand des factions de toute espèce s'agitaient dans l'Assemblée même, et quand 300 000 soldats étrangers étaient sous les murs de Paris. Un bill des droits, car j'aime à me servir dans cette occasion de l'expression anglaise. Elle ne rappelle que des souvenirs heureux et respectables. Un bill des droits fut proposé et adopté au milieu de ce désastre. Et dans le peu de mots qu'on va lire, il existe une puissance immortelle, la vérité. Je m'arrête à ce dernier acte qui a précédé de quelques jours l'envahissement total de la France par les armées étrangères. C'est là que je finis mes considérations historiques. Et en effet, il n'y a plus de France tant que les armées étrangères occupent notre territoire. Tournons nos regards, avant de finir, vers les idées générales qui nous ont servi de guide pendant le cours de cet ouvrage. Et présentons, s'il nous est possible, le tableau de cette Angleterre que nous n'avons cessé d'offrir pour modèle aux législateurs français en les accusant toutes les fois qu'ils s'en sont écartés. Note de l'éditeur. L'auteur voulait insérer ici la déclaration de la Chambre des représentants en retranchant ce qui pourrait ne pas être d'accord avec les principes professés dans cet ouvrage. Ce travail est d'une nature trop délicate pour que les éditeurs puissent se permettre d'y suppléer. Ce chapitre n'est, comme on voit, qu'une ébauche. Des notes à la marge du manuscrit indiquaient les faits marquants dont Madame de Staël avait l'intention de parler et les noms honorables qu'elle voulait citer. Note des éditeurs de 1818.